VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 27 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Seruga et Anne Albertson pour commencer les titres.
Coup de théâtre hier soir à Hollywood. Nous retrouverons notre envoyé spécial à la cérémonie des Oscars, Anastasie Tudiech.
En République centrafricaine, frappe aérienne de la MINUSCA près de Bambari.
Libération dans le nord-ouest du Nigeria de deux Allemands enlevés la semaine dernière.
Les migrants arrivant en Italie décrivent des conditions cauchemardesques de leur séjour en Libye.
Les forces irakiennes ont pris deux autres quartiers aux extrémistes du groupe État islamique hier à Mossoul-Ouest.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Eh bien, comme l'a dit tout à l'heure Anne, coup de théâtre hier soir à la cérémonie des Oscars à Los Angeles où nous retrouvons sans tarder notre envoyée spéciale Anastasie Tudiech. Anastasie, bonjour. Que s'est-il passé?
Bonjour Idriss. Écoutez, ça a été la stupéfaction. La cérémonie des Oscars touchait à sa fin et Warren Beatty et Faye Dunaway, deux monstres sacrés du cinéma, étaient donc censés annoncer le prix le plus prestigieux. Et Warren Beatty ouvre l'enveloppe et regarde, marque une pause, tend l'enveloppe à Faye Dunaway, qui la lui rend. Et ils annoncent comme meilleur film de l'année, La La Land. Toute l'équipe de La La Land monte, chacun remercie qui, sa femme, ses parents, ses enfants, pour être interrompu quelques secondes plus tard par un membre de l'Académie qui apporte le véritable vainqueur, qui est Moonlight. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nos confrères de la chaîne NBC locale, ici à Los Angeles, ont interrogé des pontes de l'organisation ici des Oscars et leur ont demandé « Mais qu'est-ce qui se passera si quelqu'un se trompe dans l'annonce des prix ?» Et on leur a répondu « C'est impossible ». Eh bien, l'impossible est arrivé.
Et donc, Anastasie, en fait, on attendait plutôt La La Land comme meilleur film, donc c'était pas vraiment une surprise.
C'est un lapsus révélateur, peut-être, parce que La La Land a de toute manière raflé 7 Oscars sur les 14 nominations qui ont été les siennes, dont meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleure musique de film. L'équipe ne repart pas non plus les mains vides. Mais enfin, personne n'attendait Moonlight à ce niveau-là, visiblement, vu l'effroi et la stupéfaction, aussi bien chez mes confrères journalistes d'ailleurs que dans la salle.
Merci Anastasie, on vous retrouvera tout à l'heure pour plus de détails en seconde partie. Ailleurs dans le monde, la mission des Nations Unies en Centrafrique a déclaré avoir conduit hier une opération aérienne contre un groupe lourdement armé près de Bambari, la deuxième ville du pays. La MINUSCA a parlé d'éléments de la coalition dirigée par le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, le FPRC. Elle avait indiqué mardi avoir obtenu le départ de Bambari d'Ali Naras, chef de l'UPC, l'autre faction de l'ex-Séléka qui se bat contre le FPRC dans la région au détriment des populations civiles.
Dans le nord-ouest du Nigeria, deux Allemands enlevés la semaine dernière ont été libérés, mais on ne sait pas s'il y a eu paiement de rançon pour leur libération. Le point avec Idriss Fall.
Les deux archéologues de l'université Goethe de Francfort sont libres, selon une source du ministère allemand des Affaires étrangères. Ousmane Aliou, porte-parole de la police de l'État de Kaduna, a confirmé leur libération sans révéler leur identité. Il a ajouté qu'à sa connaissance, aucune rançon n'a été payée et aucune arrestation n'a été effectuée parmi les ravisseurs. Les deux hommes avaient été enlevés dans le village de Djengela, dans le sud de l'état de Kaduna. Deux villageois qui avaient tenté de les secourir ont été abattus. Leur enlèvement a eu lieu près de la route reliant l'aéroport de Kaduna à Abuja, la capitale fédérale. Le gouvernement nigérian a annoncé la fermeture de l'aéroport d'Abuja pendant 6 semaines pour réparation à compter du 8 mars et tous les vols intérieurs doivent être détournés vers Kaduna. Les compagnies internationales ont refusé d'atterrir à Kaduna, invoquant des problèmes de sécurité et d'infrastructures vétustes.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, patron du Front anti-djihadiste au Sahel depuis 5 ans, a fait hier ses adieux à l'Afrique. Claire Morin-Gibourg.
Jean-Yves Le Drian quittera son poste en mai avec la fin du mandat du président François Hollande et l'élection d'un nouveau président. Sa tournée de vendredi à dimanche a pris des airs de voyage d'adieu. À Gao, au Mali, il a répété qu'il n'y a pas d'autre choix que le combat face aux groupes terroristes. Il a demandé à son homologue malien de faire plus et plus vite dans l'application des accords de paix de 2015. Un attentat suicide a fait 80 morts en janvier à Gao et mercredi dernier, 16 soldats nigériens ont été tués près de la frontière avec le Mali. À Niamey, le président nigérien Mahamadou Issoufou et à N'Djamena, le tchadien Idriss Déby ont tous salué l'ami africain sur le départ. Jean-Yves Le Drian a bouclé sa tournée auprès de soldats français postés à Faya Larjo, une oasis dans l'immensité du Sahara. À son successeur, le ministre conseille de poursuivre la grande avancée de Barkhane, c'est-à-dire la mise en place de forces mixtes contre le terrorisme entre les 5 pays du Sahel.
Les migrants se pressent toujours plus nombreux cet hiver sur les côtes italiennes. Ils sont poussés en partie par les efforts des autorités européennes pour fermer la route libyenne, mais surtout par des conditions cauchemardesques en Libye. Les gens nous battaient tous les jours et nous suspendaient avec des cordes. Ce n'était pas facile. Tous les jours, des gens meurent, a insisté Seron Camara, originaire de Guinée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump doit prononcer demain son premier discours devant les deux chambres réunies du Congrès. Entre-temps, la Maison-Blanche a tenté hier de rejeter les appels à une enquête indépendante sur les efforts russes pour influer sur la présidentielle de novembre et tout lien entre Moscou et de proches collaborateurs de M. Trump, allégation qu'a encore rejetée hier à la télévision Sarah Sanders, une porte-parole présidentielle. Un député républicain, Darrell Issa, de Californie, s'était joint aux démocrates pour demander la nomination d'un procureur spécial.
Des vandales ont brisé et retourné plus de 500 pierres tombales dans un cimetière juif de Philadelphie, dernier événement d'une série de menaces et attaques visant des sites juifs à travers les États-Unis, rapporte l'AFP. Selon un rabbin local à l'antenne de la chaîne ABC, certaines des tombes visées au sein du cimetière du Mont Carmel de Philadelphie appartenaient aux communautés Quaker ou musulmanes.
Les forces irakiennes ont pénétré plus profondément dans Mossoul Ouest, prenant deux autres quartiers aux extrémistes du groupe État islamique hier, alors que des milliers d'habitants fuyaient vers les secteurs tenus par le gouvernement. Les forces irakiennes, appuyées par l'aviation américaine, se concentrent maintenant sur l'établissement d'un pont flottant à travers le Tigre, le fleuve qui coupe en deux la deuxième ville d'Irak, afin d'établir une ligne de ravitaillement. La partie est a déjà été reprise aux djihadistes.
Les énièmes pourparlers pour tenter de résoudre le conflit syrien ont du mal à démarrer à Genève. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, avait déjà annoncé la couleur en disant ne pas s'attendre à une percée majeure. Jean-Roger Bion.
Le chef de la délégation du régime syrien à Genève, Bachar al-Jafari, a dit samedi que la priorité était de discuter de terrorisme. C'était peu après un attentat meurtrier samedi contre les services de renseignement militaires à Homs. Entre 30 et 42 personnes ont été tuées. Fateh al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, a revendiqué cette attaque perpétrée par plusieurs kamikazes. Mais pour Salem al-Meslet, porte-parole du Haut Comité des négociations, le régime syrien utilise le terrorisme comme prétexte pour bloquer les discussions sur la transition politique. Selon lui, les questions militaires doivent être discutées à Astana en référence au processus initié au Kazakhstan par la Russie et la Turquie. Moscou, allié de Bachar al-Assad et Ankara, soutien des rebelles, ont parrainé fin décembre un accord de cessez-le-feu, mais les groupes djihadistes comme Daesh et Fateh al-Sham en sont exclus. Ces nouveaux pourparlers ouverts jeudi à l'ONU se tiennent dans un contexte différent. Damas a renforcé ses positions grâce à ses alliés russes et iraniens en reprenant Alep, ancien fief des rebelles.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Gabon, neuf cadres de la BGFI Bank, l'une des plus grandes banques d'Afrique francophone, ont été incarcérés dans une enquête sur un détournement de fonds de 1,9 milliard de francs CFA, détourné via une fraude à la carte de crédit prépayée. L'ex-directeur général de la banque et 8 autres cadres ont été inculpés d'association de malfaiteurs et complicité de vol aggravé. Forum 2017 de l'aviation à Kigali, Airbus parie sur une forte croissance africaine. Selon nos confrères de Jeune Afrique, l'avionneur européen estime qu'un millier de nouveaux avions seront achetés par différents pays africains d'ici 2035. Parmi eux, le Mali, le Togo, le Rwanda ou la Sierra Leone. La plus forte augmentation du trafic devrait se faire sur des lignes intra-africaines. Le gouvernement burkinabé envisage de construire 40 000 logements d'ici 2020, des habitations accessibles à toutes les bourses selon leurs termes. Plus de 1 500 maçons seront employés et 500 coopératives seront créées à travers le pays. La population urbaine burkinabé devrait doubler d'ici à 2030. Pour les deux principales villes du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les besoins sont estimés à plus de 30 000 logements par an.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Du cyclisme pour démarrer avec la Tropicale Amissa Bongo, le coup d'envoi est pour aujourd'hui.
Oui, c'est la 12e édition de cette grande boucle. 15 équipes pour un plateau de 90 coureurs, des formations professionnelles, mais aussi de nombreuses sélections africaines. 7 jours de course avant l'arrivée à Libreville dimanche prochain. Et ça démarre ce matin avec la première étape longue de 150 km entre Mwanda et Akieni.
Football, la CAN des moins de 20 ans a débuté hier en Zambie avec les matchs du groupe A.
Et dans la première rencontre, le pays hôte, la Zambie, a battu la Guinée 1-0 grâce à un but de Patson Daka à la 40e minute de jeu. Ce résultat met la Zambie en tête du groupe A puisque la seconde rencontre entre l'Égypte et le Mali n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Score final 0-0.
Suite aujourd'hui des matchs de la première journée.
Et le groupe B entre en compétition. Faut-il le rappeler, une CAN des moins de 20 ans sans le champion du monde et d'Afrique en titre, le Nigeria, sorti par le Soudan en qualification. Et justement, les jeunes crocodiles du Nil vont affronter en deuxième heure le Sénégal. Et puis, le premier match de cette poule B mettra aux prises le Cameroun à l'Afrique du Sud. Les jeunes Camerounais qui vont essayer d'imiter leur aîné.
Élisée, on reste sur le continent pour faire le point de quelques championnats.
Oui, Idrissa, 11e journée en Côte d'Ivoire. La SEC prend la première place malgré son match nul 0-0 face au Stade d'Abidjan. Les Mimos, qui ont le même nombre de points que Sewe Sport, 19, le club de San Pedro, lui, joue aujourd'hui contre Afad. Au Gabon, le championnat est à sa 9e journée et toujours dominé par le CF Mounana, vainqueur hier de missile 2-0. Son dauphin, Mangasport, a battu Akanda 3-1. Du côté de Cameroun, le championnat a repris et en ouverture de cette première journée, le Canon Sportif de Yaoundé a battu Bamboutos de Mbouda en crise 1-0, but de Toko. Première journée également en Tunisie, mais cette fois des play-offs. L'Étoile du Sahel, l'Espérant de Tunis et le club africain ont réalisé hier un début idéal. À domicile, l'Étoile sportive du Sahel s'est imposée par 2-0 face à Ben Gaden. L'Espérance est allée battre Metlaoui sur le même score et le club africain lui s'est offert le premier choc de ses play-offs en battant le club sportif sfaxien 2-1.
En Europe, on a eu droit à quelques matchs chocs ce week-end.
En Espagne, le FC Barcelone s'offre le derby de la 24e journée de la Liga face à l'Atlético Madrid. Score 2-1. Mais c'est le Real Madrid qui est toujours leader au classement avec 55 points grâce à son succès à Villarreal 3-2 après avoir été mené 2-0. En France, c'est le classique qui a marqué la 27e journée de Ligue 1 et ultra dominateur. Le Paris Saint-Germain s'est imposé facilement à Marseille 5-1 et est revenu à 3 points de Monaco. En Angleterre, Manchester United a remporté la Coupe de la Ligue grâce à un Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé face à Southampton. Et puis du basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
San Antonio 119, LA Lakers 98, Phoenix 96, Milwaukee 100, Memphis 105, Denver 98, Utah 102, Washington 92, Portland 106, Toronto 112, Boston 104, Détroit 98, Nouvelle-Orléans 110, Oklahoma City 118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Eh bien, comme promis, la nuit des Oscars, et nous retrouvons notre envoyé spécial à Los Angeles, Anastasie Toudiech. Anastasie, rebonjour.
Rebonjour, Idriss.
Alors, on va revenir un peu plus sur ce qui s'est passé, quelque chose d'extraordinaire, je dirais du jamais vu. Hein.
Absolument, on peut le dire. La dernière étape de la cérémonie, le moment le plus attendu où l'on décerne l'Oscar du meilleur film de l'année, eh bien, a été un fiasco. Warren Beatty et Faye Dunaway, appelés sur scène pour l'annoncer, ont annoncé La La Land au lieu d'annoncer le bon film qui était Moonlight. Alors, peut-être pour nos auditeurs, je vous propose de résumer les deux films. Moonlight raconte l'histoire dans les années 80 d'un jeune noir qui vit dans les quartiers pauvres de Miami, dévasté par le crack. Et en fait, on suit ce jeune homme sur trois périodes. L'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et il est isolé, ce jeune homme, parce qu'il est noir, il est pauvre et sa mère est accro au crack et se prostitue occasionnellement pour se procurer justement l'argent et consommer ce crack. Et donc, il est complètement isolé, passé à tabac par ses camarades parce qu'il est comme ça timoré et renfermé. Et en plus de cet isolement, eh bien, il réalise qu'il est homosexuel. Donc, ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. Et c'est cette éclosion à lui-même à laquelle on assiste avec une très grande poésie, beaucoup de pudeur et un très grand respect dans le rapport du réalisateur à son sujet. Le scénario a été récompensé comme meilleur script. Voilà pour Moonlight. Pour ce qui est de La La Land, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On est dans un hommage à toute cette culture et cette tradition des comédies musicales. On pense notamment à Jacques Demy, entre autres. Voilà, c'est une comédie musicale qui raconte l'histoire à La La Land, qui est le surnom de Hollywood, d'un jeune couple. Elle a ses rêves d'actrice, lui a ses rêves de musicien. Ils s'épaulent jusqu'au moment où leur chemin se sépare, mais avec la magie de La La Land, tout est bien qui finit bien. La La Land était ce qu'on appelle un feel-good movie. On se sent bien, on se sent léger. La musique est formidable. D'ailleurs, elle a été fortement récompensée ce soir.
Et donc, pour revenir sur la cérémonie elle-même, qui était aussi assez feel-good, je crois, non ?
Totalement. Alors, feel-good et en même temps consciente. C'était vraiment la question qui hantait les esprits hein, avant le début de la cérémonie. Hein. C'était, est-ce que Hollywood va pencher pour le glam ou est-ce que Hollywood va être, cette soirée très hollywoodienne, va être très politique ? Eh bien, ça a été les deux, en général, et vraiment de manière très équilibrée. Je dirais qu'un artiste sur deux sur scène a exprimé de manière à la fois très élégante et très sérieuse, eh bien, son opposition sans jamais le nommer aux nouvelles lois de l'administration Trump. Je pense notamment à Gael García Bernal, acteur mexicain, qui a dit qu'en tant qu'acteur, en tant que travailleur immigrant, en tant qu'être humain, tout simplement, il s'opposerait de toutes ses forces et il ne pouvait pas accepter qu'il puisse y avoir des murs érigés. Le présentateur lui-même, Jimmy Kimmel, a vraiment parsemé toute sa présentation de pique à l'encontre de Donald Trump, allant même jusqu'au milieu, quand il est arrivé au milieu de la cérémonie, allant même jusqu'à s'inquiéter de ce que le président n'ait pas encore tweeté sur ce qui se passait dans le Dolby Theatre.
Et puis on peut dire aussi, je crois, que le réalisateur du meilleur film étranger, le client, Asghar Farhadi, un Iranien, oui, n'est pas venu spécialement pour protester aussi contre cette directive.
Absolument, et il a fait lire un texte à une représentante pour expliquer cela.
Merci Anastasie, c'était Anastasie Toudiech, notre envoyée spéciale à Hollywood en Californie. Eh bien, pour rester dans le domaine du cinéma, cette fois-ci en Afrique, la course à l'étalon de Yenenga, la plus haute distinction du FESPACO, va retenir cette semaine l'attention des cinéastes à Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, où les amateurs du 7e art vont aussi se pencher sur un thème important pour l'avenir du cinéma africain, celui de la formation et des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
La course à l'étalon de Yenenga est partie depuis le clap de samedi dernier par le président de la République, Roch Kabore. Durant la semaine, les réalisateurs, experts et autres acteurs du 7e art vont travailler au choix du futur vainqueur, mais aussi réfléchir, et comme il est de coutume, autour d'un grand thème qui permette de renforcer le développement et le rayonnement du FESPACO et partant du cinéma africain. Un festival qui remet au goût du jour en 2017 certains fondamentaux du cinéma nécessaires pour enfin passer un cap dans le cinéma à travers sa revalorisation et la professionnalisation des métiers de ce cinéma. D'où l'importance d'ouvrir la réflexion, indique Clément Tapsoba. Il est critique de cinéma et expert de la Fédération panafricaine des cinéastes.
Le métier du cinéma est devenu un métier porteur, dans ce sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y engagent et qu'il y a une plus-value autour donc des métiers du cinéma dans la plupart des pays maintenant. Et le Burkina est bien placé pour en dire. Mais seulement qu'il y a des insuffisances en matière de maîtrise de la technique, de l'écriture du scénario et bien d'autres éléments qui sont liés à la formation et au métier. Et il y a des métiers qui sont pas encore couvert dans notre cinéma. Et il faut effectivement examiner tout cela pour savoir comment faire en sorte que les cinémas soient vraiment un métier d'avenir, mais aussi qu'ils puissent concourir avec des produits de grande qualité.
Un thème placé sous la houlette d'un des deux uniques lauréats burkinabés de l'étalon de Yenenga et directeur de l'Institut Imagine pour le cinéma, Gaston Kabore.
Le FESPACO est justement là pour permettre qu'une expression cinématographique africaine existe dans sa diversité, dans sa pluralité, mais aussi qu'on arrive à bâtir une industrie parce que c'est un secteur économique comme un autre. Au Nigeria aujourd'hui, vous avez vu comment, avec la production de Nollywood, près de 3000 films par an, ben, c'est devenu le deuxième secteur économique dans ce pays. Donc il y a des efforts à faire et ça commence toujours par la formation. Il faut que nous formions les cadres dans tous les compartiments de l'activité cinématographique.
L'objectif ultime est la mise en place d'une véritable industrie du film dans les pays africains et qu'avec les bonnes disposition enregistrée par les succès des cinémas nigériens et ghanéens, les fruits soient enfin à la hauteur de la promesse des fleurs. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Afrique du Sud, depuis deux semaines, les villes de Johannesburg et de Pretoria sont secouées par une vague de violences xénophobes, ciblant en particulier les immigrés africains. Idriss Fall fait le point avec Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine basé à Pretoria.
C'est une situation vraiment de peur, de terreur, de crainte, de méfiance, une situation qui, depuis pratiquement deux semaines, est en train de nous hanter, de détruire tout ce que nous sommes en train de faire ici en Afrique du Sud. Tu ne peux plus travailler dans la quiétude, tu ne peux plus rien prévoir parce que tu te dis que peut-être que demain, tu seras la cible.
Mais qui est-ce qui vous attaque?
Les Sud-Africains ont commencé avec le maire de Johannesburg en début du mois de décembre qui a tenu des propos comme quoi tous les migrants illégaux sont des criminels et doivent quitter sa ville. À côté du centre-ville Rosettenville, il y a eu des maisons qui appartenaient aux migrants qui ont été brûlées, environ 22 maisons brûlées. Pour se donner une bonne raison, ils ont accusé certains Nigériens qui vivaient dans ces quartiers d'organiser la prostitution et d'être dealers de drogue. À Pretoria, c'est tous les étrangers maintenant, les Pakistanais, les Somaliens, les Zimbabwéens, les Nigériens. Tout le monde était attaqué à Pretoria. Ceux qui attaquaient demandaient de quitter la ville de Pretoria. Ils en ont marre. Les étrangers viennent voler leur emploi, amènent des maladies. Les étrangers sont le mal qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui.
Mais il y avait eu des attaques assez violentes il y a quelques années, non?
En 2008, il y a eu des attaques xénophobes où il y a eu environ 70 morts des migrants venant du Zimbabwe, du Mozambique. Certains ont été brûlés vifs. Mais en 2015, il y a eu ces mêmes tueries qu'après des propos tenus par le roi Zoulou. La diaspora africaine que je dirige a traduit le roi Zoulou devant la Commission des droits de l'homme. Mais vous le savez, le roi Zoulou, c'est quelqu'un qui mobilise plein des milliers de Zoulous pour voter pour le parti au pouvoir. Après plus d'une année, la Commission des droits de l'homme a tranché. Les propos du roi Zoulou n'ont pas incité les gens à la violence, mais seulement ils reconnaissent que ces propos pouvaient faire mal aux étrangers.
C'était Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine basé à Pretoria. En République démocratique du Congo, l'accord du 31 décembre entre l'opposition et la majorité pour la gestion consensuelle de la transition n'est toujours pas mis en œuvre. Le principal point de blocage demeure le mode de désignation du Premier ministre qui devrait provenir du Rassemblement. Cependant, il y a controverse autour d'une lettre laissée par Étienne Tshisekedi, chef de file de l'opposition, décédé le 1er février à Bruxelles, aux évêques catholiques et désignant son fils Félix Tshisekedi comme seul candidat à la primature. Reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
C'est une vive polémique autour d'une lettre qu'aurait laissée Étienne Tshisekedi, désignant son fils Félix Tshisekedi comme candidat Premier ministre, poste qui revient au Rassemblement selon l'accord du 31 décembre 2016. Le président du G7, coalition qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, confirme que la lettre a été bel et bien remise aux évêques catholiques. Pierre Lumbi.
Si l'abbé Chollet a répondu qu'il ne connaissait pas cette lettre-là, ce n'est pas parce qu'il voulait mentir, c'est parce qu'il avait le devoir de protéger la confidentialité de la lettre.
Joint par Top Congo FM depuis Bruxelles, le secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi, Théo Chilumba, confirme que c'est lui qui a remis la lettre au président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et c'est après un consensus autour du nom de Félix Tshisekedi.
La lettre a été déposée à la synchro. La lettre est remise à Mgr Marcel Oudéni en présence de M. l'abbé Chollet, à Mgr Marcel, qui a pris connaissance de la lettre et il a passé aussitôt après à M. l'abbé Chollet, qui a pris aussi connaissance de la lettre.
Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, martèle que le chef de l'État qui a reçu en début de semaine les évêques catholiques attend toujours la liste des trois candidats du Rassemblement à la primature. Obem Minaku.
Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'a jamais reçu une quelconque correspondance, ni à travers ses services, ni à l'occasion de cette audience. Le président de la République a clairement annoncé qu'il attendait une liste de trois candidats et que dès que cela sera fait de la part du Rassemblement, il nommera le Premier ministre.
Par contre, la SENCO, qui est sortie de sa réserve, a finalement confirmé qu'elle avait bel et bien reçu la lettre que les évêques catholiques ont même présentée au chef de l'État lors de leur dernière rencontre. Abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO.
Les porteurs de cette missive ont donné avec insistance trois conditions pour sa remise à qui de droit. La stricte discrétion, attendre le moment opportun, c'est-à-dire si toutes les négociations entre le Rassemblement et la majorité présidentielle n'aboutissent pas, et la remise en main propre au destinataire. La SENCO a profité de sa rencontre avec le chef de l'État pour la lui remettre. Ce dernier a estimé qu'il revient au futur président du Conseil des sages du Rassemblement de lui présenter la liste des candidats.
Côté population, beaucoup digèrent mal ces manœuvres visant à retarder la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'organisation des élections.
On doit seulement mettre Félix Tshisekedi, Premier ministre, pour au moins qu'il y ait la paix ici en RDC. Kabila veut rester au pouvoir, c'est pour cela qu'il fait toutes ces manœuvres-là.
Cela ne peut pas quand même tarder. Cela ne s'agit pas de perdre encore le temps, d'engager un débat concernant Félix Tshisekedi.
Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique.